L'Assemblée entendra maintenant une intervention de son Excellence Haïlé Mariam Dessalegne, Premier ministre de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie. Je demande au protocole d'accompagner son Excellence.
Monsieur le Président, c'est avec un vif plaisir que je vous félicite à l'occasion de votre élection à ce haut mandat de président de la 68e session de l'Assemblée générale qui a lieu sous le thème « Programme de développement de l'après 2015, plantons le décor ». Je tiens à vous assurer de l'appui entier de ma délégation et de sa coopération pour l'exécution de vos lourdes responsabilités. Et je tiens également à féliciter votre prédécesseur pour le leadership avisé dont il a fait preuve au cours de la session précédente. Monsieur le Président, j'aimerais en premier lieu condamner les attentats terroristes au Kenya qui ont fait des victimes dans les civils innocents et ont laissé beaucoup de blessés sur le pavé. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances au peuple et au gouvernement du Kenya, de même qu'aux familles des victimes de cet attentat impitoyable. Cet incident nous montre encore une fois qu'il est nécessaire de renouveler notre engagement pour combattre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses formes et manifestations. Monsieur le Président, je prends la parole à l'Assemblée aujourd'hui, non seulement au nom de mon pays, mais également pour représenter l'Union africaine et Union dont l'Éthiopie a l'honneur d'être le président cette année. C'est une heureuse coïncidence. L'Éthiopie, qui était hôte de la conférence de fondation de l'OUA il y a 50 ans, a assuré la présidence par roulement de cette première organisation du continent à un moment où elle célèbre son jubilé d'or. Nous sommes très heureux d'avoir reçu le sommet des chefs d'État africains et des chefs de gouvernement pour célébrer le jubilé d'or de l'OUA et de l'UA le 25 mai 2013. Et j'aimerais saisir l'occasion pour exprimer ici ma sincère gratitude à tous ceux qui ont envoyé leur délégation à Addis Abeba pour prendre part aux célébrations et qui ont transmis leur message d'appui et de solidarité à l'Union africaine. Comme le 50e anniversaire sera un événement très long, on aimerait marquer ce jalon historique au cours de la session de l'Assemblée en engageant une réflexion sur les relations entre l'ONU et l'OUA ou UA au cours des 50 dernières années. Lorsque la Charte des Nations Unies fut signée en 1945, une bonne partie de l'Afrique vivait encore sous le joug du colonialisme. Depuis, notre continent a été libéré des restes du colonialisme et autres formes de domination. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les pays africains constituent l'un des groupes les plus importants à l'Assemblée. J'aimerais saisir l'occasion pour exprimer ici ma sincère et profonde reconnaissance aux Nations Unies pour sa précieuse contribution au processus de décolonisation. Ne perdons pas de vue, cependant, que tous les défis auxquels nous avons été confrontés dans ce combat ont disparu. On ne peut pas dire non plus que tout le processus de décolonisation sous toutes ses formes a pris fin. Nous devons donc renouveler notre engagement au processus de décolonisation en Afrique. Conformément au chapitre 8 de la Charte, l'ONU a travaillé en étroite coopération avec l'Union africaine et autres mécanismes régionaux pour faire avancer ses objectifs cardinaux. Depuis bientôt 5 décennies, la coopération, le partenariat entre l'OUA, l'UA et les Nations Unies n'a cessé d'être élargi et approfondi dans un vaste éventail d'aspects et de domaines. Nous reconnaissons et nous respectons la coopération précieuse des Nations Unies à ce qui était l'OUA et qui est maintenant l'UA pour s'attaquer aux défis à visage multiple que nous avons connus sur notre continent. Néanmoins, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour renforcer la coopération et le partenariat entre l'Union africaine et les Nations Unies dans le contexte d'une dynamique en pleine évolution, que ce soit en Afrique ou dans le monde. J'espère sincèrement que cette occasion historique nous donnera l'occasion d'engager une réflexion sérieuse sur nos défis et sur nos lacunes afin de renforcer notre coopération et partenariat pour mieux répondre à un environnement sans cesse changeant. Je pense qu'il faut adopter une approche à la fois souple et novatrice pour mettre en œuvre le chapitre 8 de la charte afin de renforcer notre partenariat avec l'objectif de nous attaquer à nos défis communs. Nous célébrons à l'heure actuelle le jubilé d'or de l'OUA-UA, un moment où les stéréotypes sur l'Afrique ou dans lesquels on parle d'un continent en butte aux maladies, aux conflits, ont commencé à changer. En dépit de nombreuses difficultés qui persistent, l'Afrique a vraiment tourné la page, a réduit le nombre de conflits qui accable le continent et encourage la gouvernance démocratique tout en combattant la pauvreté grâce à une croissance et un développement accéléré. Avec plus de paix et de stabilité, une croissance économique rapide, de grandes richesses naturelles, une classe moyenne en pleine expansion, l'Afrique est en plein essor, ce qui a d'ailleurs appelé l'attention du reste du monde. Le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique si nous harmonisons nos efforts pour maintenir et accélérer la croissance économique qu'a connue l'Afrique depuis bientôt une décennie. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes. La renaissance de l'Afrique arrive à grands pas. Ce développement positif est nul doute encourageant, mais nous devons reconnaître que nous ne pourrons accomplir nos aspirations pour une Afrique pacifique, prospère et intégrée que grâce à une transformation structurelle de fond en comble. C'est la raison pour laquelle nous misons sur le jubilé d'or pour un programme de transformation de l'Afrique qui sera mis en œuvre au cours des 50 prochaines années. Nous avons également adopté un plan stratégique pour la Commission pour les années 2014-17 au cours de notre dernière session en mai 2013 et l'objectif principal en est de poser des fondements solides pour la réalisation de notre vision à court et à moyen terme. Monsieur le Président, il est opportun que nous soyons à présent engagés dans ce programme de transformation à un moment où les négociations intergouvernementales ont vraiment commencé pour l'après-2015. Je suis heureux que cette session de l'Assemblée générale débattra de la question et je tiens à féliciter le panel de haut niveau présidé par l'Indonésie et le Libéria ainsi que le Premier ministre du Royaume-Uni pour le rapport très complet qu'ils nous ont présenté au secrétaire général. J'espère que ce rapport nous donnera des contributions précieuses pour la discussion du programme de développement de l'après-2015 au cours de la présente session. Nul doute, l'Afrique attache une importance capitale à cette question fondamentale et elle a d'ailleurs constitué un comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement pour mettre au point une position commune en vue de galvaniser l'appui international pour veiller à ce que les succès remportés jusqu'à présent dans la mise en œuvre des OMD soient soutenus et que les priorités de développement de l'après 2015 soient prises en compte. United Nations
Economic Committee. Comme le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique l'a dit à juste titre, ce dont l'Afrique a besoin, c'est de transformation structurelle, pas d'ajustement structurel. L'ordre du jour de développement que nous cherchons à établir pour les 50 prochaines années vise aussi à réaliser cet objectif fondamental afin d'éradiquer la pauvreté et assurer le développement durable. En ce qui concerne les travaux du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable, nous avons l'intention d'élaborer une position africaine bien réfléchie suite aux travaux de notre Troïka, la Commission de l'Union africaine, la CEA et la Banque de développement pour l'Afrique. Dans ce contexte, nous voulons réaliser une révolution verte en Afrique et assurer la sécurité alimentaire de nos peuples. Le thème de l'Union africaine pour 2014 sera l'agriculture, la sécurité alimentaire et la promotion du programme complet de développement de l'agriculture de l'Afrique qui nous permettra de renforcer notre engagement pour la transformation du secteur agricole en Afrique. Nous sommes aussi convaincus du besoin pour l'Afrique de s'industrialiser afin d'accélérer sa croissance économique et de créer des emplois, augmenter les revenus et diversifier les exportations. Ceci peut se faire sur la base de nos dotations factorielles et en tenant compte du besoin pour nous d'augmenter la valeur ajoutée et d'exploiter les liens en amont et en aval. On ne peut que souligner que surmonter la pauvreté n'est pas durable sans transformation structurelle et sans valeur ajoutée qui rendrait l'industrie, ce qui fait de l'industrialisation non pas une option, mais une nécessité inévitable pour l'Afrique. Permettez-moi de dire que nous remercions tous ceux qui nous ont proposé des partenariats afin de veiller à ce que l'Afrique développe la capacité d'énergie moderne et abordable sans laquelle l'industrialisation ne serait pas possible. En outre, nous aimerions investir dans les infrastructures qui ont été négligées au cours des dernières décennies afin de promouvoir le commerce intra-africain et accélérer l'intégration régionale. Nous sommes aussi engagés à redoubler d'efforts pour améliorer le bien-être de nos sociétés. En particulier, nous pensons que l'Afrique doit récolter les bénéfices de ces dividendes démographiques en investissant dans sa population. Éduquer notre jeunesse et renforcer nos aptitudes, leur aptitude est critique pour utiliser comme il se doit notre capital humain. Par conséquent, nous devons espérer que le cadre de développement mondial pour l'après 2015 s'alignera sur nos priorités et nos besoins de développement. Monsieur le Président, en Afrique, nous reconnaissons que nous ne pouvons réaliser nos aspirations de développement en l'absence d'une paix et d'une sécurité durable. C'est pour cela que nous avons déployé des efforts d'envergure pour traiter le fléau des conflits sur notre continent. Nous sommes heureux de noter le déclin et la réduction dramatique du nombre des conflits en Afrique au cours de la dernière décennie, à l'exception de quelques situations. Mais nous comprenons également qu'il existe une nouvelle dynamique de sécurité dans notre continent, vu l'augmentation du mécontentement populaire étant donné des aspirations qui n'ont pas encore été satisfaites. À cet égard, l'Union africaine a déployé des efforts pour assister l'Égypte, un État membre dont la contribution au processus de décolonisation de notre continent et dont la contribution à l'unité africaine ont été hors pair. L'Union africaine l'assiste pour surmonter ces difficultés dans l'esprit de la solidarité africaine. L'Union africaine apporte aussi l'appui nécessaire à la Tunisie afin d'assurer une transition politique fructueuse par l'adoption d'une nouvelle constitution et la tenue d'élections. D'autre part, nous nous félicitons de la tenue réussie d'élections au Mali qui a permis de restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays. L'Union africaine est en effet attachée à continuer d'assister le Mali dans ses efforts pour assurer une paix, une sécurité et un développement durable. Nous sommes satisfaits des progrès significatifs réalisés en Somalie pour instaurer la paix dans le pays. Et nous sommes encouragés par les accords obtenus entre le gouvernement fédéral somalien et l'administration intérimaire de Djouba, qui constitue un jalon significatif dans la promotion de la paix et de la réconciliation nationale. La nouvelle donne annoncée à la conférence de Bruxelles consacrée à la Somalie le 16 septembre 2013 renforcera la dynamique pour la reconstruction et la consolidation de la paix dans le pays. Monsieur le Président, la situation sécuritaire et humanitaire en République centrafricaine est toujours préoccupante. je souhaite réitérer notre appel aux Nations Unies afin que celles-ci apportent un appui diversifié à la mission d'appui international menée par l'Union africaine en République centrafricaine, la FISMCAR, qui sera déployée dans ce pays pour protéger les civils et restaurer la sécurité et l'ordre public. D'autre part, l'escalade de la tension dans l'est de la République démocratique du Congo représente aussi des menaces à la paix et à la sécurité de la région des Grands Lacs et du continent dans son ensemble. La seule solution durable est que le gouvernement et l'opposition armée mènent à terme leur pourparlers de paix sous les auspices de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À cet égard, je souhaiterais saluer le résultat du sommet extraordinaire de la Commission internationale des Grands Lacs à Kampala le 5 septembre 2013 et du sommet de lundi ici à New York en marge de l'Assemblée générale. Quant aux relations entre le Soudan et le Soudan du Sud, l'Union africaine, en collaboration étroite avec l'IGAD, a établi un mécanisme d'enquête ad hoc pour vérifier les allégations exprimé par les deux pays d'appui et d'accueil des éléments dissidents des uns des autres. L'équipe mène ses travaux et j'espère que le résultat de cette enquête aidera les deux pays à progresser dans la mise en œuvre des accords qui ont été signés et la normalisation de leurs relations. Au niveau pratique, les engagements réguliers que les dirigeants des deux pays tiennent contribueront dans une grande mesure à permettre aux deux pays de sortir de l'impasse et à résoudre certaines des questions en suspens qui restent difficiles. Monsieur le Président, je souhaiterais soulever une importante question qui est très préoccupante pour nous dans nos efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la réconciliation nationale dans le continent et une question sur laquelle il y a un consensus fort qui existe en Afrique. En Afrique, encore et encore, nous avons affirmé notre engagement infaillible pour lutter contre l'impunité, promouvoir la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance à travers le continent en vertu de l'acte constitutif de notre Union. Ceci a été prouvé de façon empirique par les mesures audacieuses prises par l'Union africaine ces derniers temps. Pour ce qui est de la CPI, nombre de nos États membres ont ratifié les statuts de Rome en respectant fidèlement leurs objectifs, ses objectifs et ses principes fondamentaux. Malheureusement, la façon dont la CPI a fonctionné a laissé une grande amertume en Afrique. Au lieu de promouvoir la justice et la réconciliation, de contribuer à la paix et à la stabilité, elle est devenue un instrument politique visant l'Afrique et les Africains. Ceci est tout à fait inacceptable et c'est pour cela que l'Afrique a exprimé ses réserves fermes à l'égard de la CPI. Il est regrettable que nos demandes répétées au Conseil de sécurité des Nations Unies de reporter les procédures lancées contre le président al-Bashir n'aient ni été entendues et qu'elle n'ait ni fait l'objet de mesures. Nous n'avons pas non plus reçu de réponse à notre demande de reporter les enquêtes de la CPI et les poursuites menées par la CPI concernant la violence post-électorale de 2008 au Kenya et en vertu du principe de la complémentarité afin de permettre au mécanisme national de mener ces enquêtes et de poursuivre les procédures dans le cadre d'un système judiciaire réformé prévu dans la nouvelle constitution. À la lumière des événements encourageants au Kenya avec l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme du système judiciaire et la tenue d'élections législatives et présidentielles avec succès, nous pensons qu'il est essentiel d'appuyer la consolidation de la paix et la réconciliation nationale dans le pays. À cet égard, la décision récente de la CPI par rapport à la situation au Kenya a un impact négatif sur l'aptitude des dirigeants kenyans à s'acquitter de leur responsabilité constitutionnelle. Par conséquent, j'aimerais à nouveau saisir cette possibilité d'exhorter le Conseil de sécurité des Nations Unies à réagir à nos demandes. Monsieur le Président, dans un monde de plus en plus mondialisé et de plus en plus multipolaire, l'Afrique doit forger des partenariats multiples pour réaliser ses aspirations de développement et occuper la place qui lui revient de droit dans l'arène internationale. À cet égard, je suis satisfait de noter que le partenariat stratégique pour l'Afrique avec les économies développées et émergentes s'est étendu et s'est approfondi ces dernières années. Voilà la voie que nous cherchons à suivre. L'Afrique a besoin de la solidarité de toutes les sections de la communauté internationale. Nous espérons que l'appui nécessaire sera accordé à l'Afrique dans l'esprit de la déclaration du millénaire qui a mis l'accent avec tant d'éloquence sur la situation spéciale en Afrique. Ceci, selon nous, doit être l'esprit avec lequel les lacunes de mise en œuvre de l'EMD 8 doivent être traitées dans le peu de temps qu'il nous reste jusqu'à l'échéance des OMD. En conclusion, Monsieur le Président, je souhaiterais souligner l'engagement durable de l'Afrique envers cet organe mondial indispensable, une organisation universelle dont la viabilité est une nécessité pour notre existence. C'est dans cet esprit que l'Afrique continuera d'entretenir sa coopération avec l'ONU. Merci.